Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h46, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Gilles Legendre, député de Paris, vice-président et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée.
Bonjour à vous Gilles Legendre.
Bonjour Elisabeth Martichoux.
Merci d'être dans ce studio d'RTL. Vous n'avez pas peur que Nicolas Hulot vous gâche les fêtes de Noël ?
Pas du tout. C'est vrai que Nicolas Hulot n'assistait pas à la restitution des états généraux de l'alimentation et de l'agriculture, mais c'était les états généraux de l'alimentation, de l'agriculture et pas de l'écologie. Mais cette réponse ne va pas vous suffire.
Non, parce que ça sent vraiment les éléments de langage.
Non, oui, c'est d'ailleurs pour ça que je passe tout de suite à la deuxième explication. Il y a, par construction, des tensions contradictoires, non pas entre les hommes, mais entre les ambitions qu'ils portent. On ne peut pas réussir la transition écologique en France, dans tous les domaines, sur un coup de baguette magique. La question du rythme et des parties prenantes est fondamentale. Le rythme, c'est faire en sorte que, évidemment, on s'oriente vers une agriculture et une alimentation plus saines. Et nous avons pris hier des engagements très forts dans ce domaine, notamment sur la montée du bio. Mais nous ne pouvons pas le faire à un rythme qui flanquerait tout un secteur par terre, en l'occurrence l'agriculture.
Alors,
et les agriculteurs.
Vous me permettez, on reprend. Nicolas Hulot devait prendre la parole à la dernière journée, au dernier jour, de ces états généraux de l'alimentation, qu'il avait lui-même voulu, nous a rappelé Virginie Garin tout à l'heure à 7h. Finalement, il déclare forfait. C'est pourquoi ? Pour montrer à quel point il est frustré ? Son insatisfaction ? Il devait venir.
Je crois que le président de la République a dit récemment que l'intérêt de Nicolas Hulot, c'est qu'il pratiquait la politique autrement, que justement, il évitait les éléments de langage, la langue de bois. Il y a forcément, dans ce gouvernement, des intérêts contradictoires, et c'est le rôle des gouvernements.
Je veux bien, mais reconnaissez que là, il casse l'ambiance. Reconnaissez qu'il brouille cette dernière journée, que s'il était venu, il aurait montré qu'il était content ou pas content, mais en tout cas, on n'aurait pas parlé de ça. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de méthode ?
Alors, la méthode sur ces états généraux, c'est d'essayer d'embarquer tout le monde.
La méthode de Nicolas Hulot, en termes de messages donnés par le
gouvernement.
Écoutez,
il va très certainement s'expliquer sur le sens qu'il peut donner à cette absence. Je ne vais pas parler à sa place. J'ai découvert ce matin qu'en effet, ça pouvait poser un problème. Le sujet, franchement, il n'est pas là. Les états généraux ont permis de se concerter avec l'ensemble des parties prenantes, y compris celles qui trouvent qu'on va trop lentement. Donc, je ne vous raconte pas d'histoire.
Est-ce qu'il n'a pas raison, Nicolas Hulot, sur le fond, puisque vous voulez parler du fond, vous avez sans doute raison, mais face au manque d'ambition et de soutien financier de l'agriculture biologique dans la restitution hier des travaux par le Premier ministre.
Il n'y a pas de manque d'ambition.
Ah bah on fait monter. Ce n'était pas le cas,
vous, sur tous les sujets aujourd'hui que nous ouvrons, tous les chantiers de réforme que nous ouvrons, les associations, les parties prenantes ne défendent que leur intérêt, et heureusement qu'elles sont là pour le faire, parce que ça crée une dialectique qui nous permet d'avancer. Mais nous ne sommes pas d'un côté ou de l'autre.
Mais de fait,
nous
sommes obligés de faire la question de santé. Si. De fait, il n'y a rien de nouveau sur les questions de santé dans la restitution.
On a éclusé le dossier glyphosate avant la restitution. C'était un dossier fondamental.
Une couleuvre avalée par Nicolas Hulot.
Mais c'est...
Oui, non,
non,
mais...
non. Si, attendez, l'Europe était partie pour 10 ans pour l'interdiction du glyphosate. On a un accord européen de 5 ans et nous, on a dit qu'on allait essayer de le faire dans les 3 ans. Mais vous savez, c'est compliqué cette affaire-là. On ne peut pas se contenter d'incantations. Il faut agir. On investit 5 milliards sur la transition écologique et de l'agriculture. Vous trouvez que c'est zéro ?
Sur la forme, cette façon, et après on passera à autre chose, mais cette façon de bouder, c'est une bonne méthode. Il va faire ça longtemps, Nicolas Hulot, sans user la patience du président.
On prend les gens comme ils sont. Elisabeth Martichoux, et il en est d'un des gouvernements comme dans les relations.
C'est pas dommageable à l'image du gouvernement.
Je suis pas sûr.
C'est pas dommage.
Je trouve que c'est presque plus honnête d'afficher ces différences-là, ces personnalités, ces caractères, que de chercher à tout prix l'unanimisme, l'embrassement de folle vieille sur des faux accords ou en masquant les divergences. Vous savez, les Français ne sont pas dupes.
C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron dimanche sur France 2, c'est-à-dire Nicolas Hulot était une personnalité inquiète.
C'est ce que je vous disais. Mais oui.
Jamais satisfaite, a-t-il dit.
Eh bien, écoutez, c'est très bien.
Et
nous
il
sommes,
le montre. Et
ben, je vais vous dire, et il n'est pas le seul dans ce cas. À être toujours insatisfait. Nous devons d'être constamment insatisfaits.
Oui,
parce que
vous
sinon,
récupérez la satisfaction à votre profit. Il ne va pas quitter le gouvernement, vous en êtes sûr ?
Alors ça, écoutez, je ne vois vraiment pas pourquoi il le quitterait. Maintenant, ce n'est pas moi qui suis dans la tête de Nicolas Hulot. Mais franchement, ça ne me paraît pas être le scénario le plus sérieux.
Vous terminez la session parlementaire sur les rotules, Gilles Legendre ?
Pas du tout.
Bon, parce qu'il y en a qui le disent, et pas uniquement sous l'anonymat. Certains de vos collègues sont effectivement épuisés. divisé, au bord du divorce.
Alors, c'est je suis très fatigué, Elisabeth Martichoux, oui. Et très fier de l'être.
Aussi, hein.
Et très fier de l'être. Exactement. De l'être. Si vous trouvez des Français ou des députés qui ne sont pas fatigués le 22 décembre, soit ce sont des gens qui ont eu une vie particulièrement paisible cette année, soit ce sont des affabulateurs. Plus sérieusement, tout ça...
C'est dommage qu'ils se plaignent, publiquement.
Oui, je pense. Le président, notre président de groupe, Richard Ferrand, hier parlait de babillage inutile. Je trouve ça presque trop gentil.
Vous diriez quoi ?
Moi, je dirais que nous avons une chance extraordinaire, et moi, je le dis personnellement, il y a un an, je partais au Québec pour les vacances de Noël. Est-ce que vous pensiez que j'imaginais ce qu'allait être mon année ? Est-ce que vous imaginez le cadeau qu'allaient me faire les Français au mois de juin en me donnant la possibilité de consacrer les dernières années de ma vie professionnelle à servir mon pays ? Nous avons une chance inouïe, chérissons-la.
Oui. Chérissons-la. Donc pas de plainte, pas de pleurnicherie, ce sont des caprices d'enfants gâtés.
Non, mais écoutez, de temps en temps, quand la fatigue atteint un niveau tel, il est parfois difficile de la cacher. Mais honnêtement, vous savez, 10 jours de vacances et on n'y verra plus rien.
Les frais de mandat ont été encadrés par la loi de confiance. Mais il y a toujours une petite musique ambiante autour de laquelle les élus, et notamment au Parlement, seraient trop payés. Vous répondez quoi ?
Là aussi, personne ne nous a forcés à nous présenter à l'élection législative.
Non, mais là, on dit que vous êtes trop payé.
Non.
Les Français pensent, beaucoup de Français
Je ne suis pas sûr que les Français pensent ça. Il y a un vrai sentiment de suspicion des Français vers l'ensemble de la classe politique, pas tant sur leur rémunération, leur mode de vie, mais le principal reproche, c'est que depuis 20 ans, 30 ans, les classes politiques ont créé une immense inefficacité de l'action publique. Et il est évident que, quel que soit le montant de votre rémunération, de vos avantages, si vous n'êtes pas efficace, de toute façon, ça sera toujours trop cher.
Cette défiance, uniquement liée à l'inefficacité. Et si vous êtes efficace, on retrouvera la confiance.
Assurément.
Le député François Ruffin de France Insoumise avait annoncé en juin qu'il n'empocherait que l'équivalent d'un SMIC. Il reverserait tout le reste de son indemnité à des aides. Qu'en pensez-vous, ça ? C'était de la démagogie ?
Oui, je pense que c'est de la démagogie. Nous devons être fiers de ce que nous faisons, nous devons expliquer ce que nous faisons, nous devons obtenir des résultats. De ce point de vue-là, on peut en dire deux mots, ça va prendre un peu de temps, parce que nous attaquons des réformes tellement profondes qu'elles n'auront pas de résultats immédiats. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les Français ne nous approuvent pas encore sur tout ce que nous faisons. Il y a même des mesures sur lesquelles ils sont encore franchement défavorables. Ce qui est en train de changer, c'est qu'ils ont conscience qu'ils n'ont jamais été gouvernés comme ça depuis longtemps. Certains commentateurs disent, depuis le retour du général de Gaulle en 1958, que jamais un gouvernement et une majorité n'ont travaillé avec autant d'intensité et, je pense, de cohérence. Ça ne fait pas encore un consensus politique au sein du pays, mais c'est un changement qui est plein de promesses et que nous allons évidemment essayer d'approfondir.
Pas de triomphalisme, on a bien compris. Même si les perspectives économiques sont positives, il y a effectivement des très bons sondages. Est-ce que vous admettez que le curseur est à droite pour l'instant, sur la fiscalité, sur l'économie, sur le régalien, comme on dit, la sécurité et l'immigration, par exemple.
Deux choses. Je considère que le dépassement du clivage droite-gauche, qui a été un formidable élan pour nous pour conquérir le pouvoir, ne fait pas une doctrine politique. Donc ça, je ne veux plus rentrer dans cette polémique-là ou dans cette dialectique-là. En revanche, je pense que nous avons pris un tas de mesures qui donnent l'impression d'être de droite dans l'ancienne façon de faire et qui aujourd'hui sont des mesures qui vont permettre de libérer le social comme on n'a jamais fait.
Parallèlement, Emmanuel Macron est encore perçu comme le président des riches pour 67% des Français, selon Doxa.
Il y a des étiquettes qui mettent du temps à disparaître.
Qu'il n'y a pas quelque chose là qu'il doit rectifier dans les mois qui viennent ? Puisque vous admettez que la politique est perçue...
Ce qu'on doit rectifier, et pas seulement le président de la République, c'est que nous ne pourrons pas fonder le projet politique que nous portons sur les 5 ans et peut-être au-delà uniquement sur la question de l'efficacité. Elle est un préalable indispensable pour la raison que j'ai dite. Nous devons maintenant entraîner les Français dans un vrai projet politique complet, qui
mais
soit...
Vous voulez dire quoi ? Il faut parler à la France qui souffre, n'est pas touchée par la politique d'Emmanuel Macron ?
Il faut parler aux Français autant à leur cœur qu'à leur tête.
Aujourd'hui, mesure ?
Eh bien écoutez, il y a un sujet qui est central dans le macronisme, c'est la question de l'égalité des chances. Et qui est au cœur du pacte républicain, mais historiquement, c'est comme ça que s'est fondée la République, enfin la Troisième République. Il faut que nous allions beaucoup plus loin, mais il y a aussi l'Europe qui est fondamentale. Il y a aussi la place de l'entreprise dans la société. Il faut que l'entreprise sache beaucoup mieux conjuguer la performance économique et le progrès social.
C'est souvent ce qu'on, une définition du macronisme. Vous dites que c'est nécessaire, mais pas suffisant.
Absolument.
Et il faut maintenant, justement, parler à ces territoires oubliés
alors,
par le
absolument.
Président. Absolument.
Il y a en France un certain nombre d'inégalités. Nous ne le contestons pas. Nous contribuons à les combattre avec toutes les mesures de pouvoir d'achat que nous allons prendre. Mais l'inégalité des revenus et l'inégalité des patrimoines n'est rien à mes yeux à côté de l'inégalité des territoires. Vous ne pouvez pas réunir la France sur un projet politique quand vous avez des territoires avec seulement 4 ou 5 % de chômeurs et d'autres qui sont à 35 ou 40 %. Nous allons agir dans cette direction. Nous devons réunir les Français autour d'un projet commun, mobilisateur, et qui les entraîne tous, et pas simplement les élites.
Voilà, Gilles Legendre, vous êtes dans un état d'esprit de béatitude, vous
pas du tout.
Je ne reviens pas d'être là, c'est
non,
formidable,
j'ai pas
de béatitude,
dit ça, mais Elisabeth Martichoux, vous réécrivez notre interview, malheureusement il nous manque le temps pour que je la corrige à l'essentiel.
Caractérisez alors votre état d'esprit.
Nous sommes fiers et humbles.
Fiers et humbles.
Et, et un peu anxieux. Parce que les responsabilités que nous avons nous obligent, que l'année 2018 ne sera pas simple. Ça, je vous le garantis.
Eh bien, on en reparlera ensemble sur RTL.
Merci avec plaisir.
Beaucoup à
merci
vous.
Beaucoup.
Et joyeux Noël à tous.
Merci à tous les deux. L'entretien, bien entendu, à retrouver sur le site rtl.fr.